Le texte, effectivement, de ce matin, ce sera le chapitre 6 du prophète Ésaïe, un chapitre dont nous lisons souvent pour introduire nos temps de louange, les premiers versets. Aujourd'hui, nous allons le prendre et le lire en entier. Ce n'est pas un chapitre très très long et vous verrez vraiment deux parties dans ce chapitre que vous allez de toute façon le voir à la lecture. Première grande partie, Ésaïe a une vision de Dieu sur son trône, et dans une deuxième partie, Ésaïe reçoit une mission difficile. Je ferai la lecture de ce texte dans la version de la Bible Second 21. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise à l'aide de pincettes, qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Alors, il a ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. » Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il a répondu, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore un dixième des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche, quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Le chapitre 6 du livre d'Ésaïe raconte une expérience qui a changé la vie du prophète. C'est le récit d'une rencontre bouleversante avec Dieu qui a eu lieu l'année de la mort du roi Ozias. Ce détail nous aide à situer le passage dans le temps au cours de l'année 740 avant notre ère. Mais surtout, ce détail nous aide à comprendre le contexte aussi de notre passage. Si nous lisons la vie du roi Ozias qui est retracée dans 2 Chroniques chapitre 26, il était âgé de 16 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 52 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ce qui est très rare pour les rois après David et Salomon. Il a recherché Dieu pendant les jours de Zacharie, qui était probablement un de ses conseillers, ce n'était pas le prophète Zacharie. Dieu le bénit et la nation tout entière profita de ses succès et elle connut une période de prospérité matérielle et de paix. Ozias était particulièrement admiré à cause notamment aussi de sa puissance et sa puissance militaire. La Bible nous rapporte que c'est sous son règne que des ingénieurs ont inventé des machines à placer sur les tours des remparts afin de lancer des flèches et des grosses pierres. Mais essayons de nous représenter ce que furent ces 52 années de paix, de stabilité et de prospérité. Dans le royaume de Juda, il n'y avait personne qui était âgé de moins de 55 ans et qui se souvenait d'un autre roi que le roi Ozias. Mais ces années vont s'achever. Le roi Ozias a péché, il a été frappé de lèpre, puis il est mort, ou bien il va mourir dans les mois qui suivent, hein, puisqu'il est précisé dans l'année de la mort du roi Ozias. On ne sait pas s'il est encore mort, ou il va mourir quelques mois après. Que va-t-il se passer? Qui va conduire le peuple? Les ennemis vont-ils envahir le pays? C'était une année de questionnement et de crise nationale. Et c'est dans cette période de crise, l'année de la mort du roi Ozias, que le Seigneur Dieu a choisi d'appeler et d'envoyer le prophète Ésaïe. Dans notre vie, nous sommes également confrontés à des moments qui peuvent être des moments et des situations de crise. Une crise familiale, un problème de santé, un décès, un divorce. Les crises nationales et même mondiales peuvent aussi nous affecter personnellement. Le terrorisme, le chômage, les incertitudes liées à l'épidémie. Nous pouvons traverser des crises quant à notre foi, lorsque nous nous bagarrons contre de nouveaux doutes, lorsque nous pensons à nos prières restées sans réponse, ou encore lorsque nous affrontons un conflit. Pourquoi les périodes de calme s'achèvent-elles? La manière dont Dieu a agi envers Ésaïe nous enseigne qu'il peut utiliser ces moments difficiles. Dans la main de Dieu, les périodes de crise sont une opportunité de croissance et de mieux connaître Dieu encore. Lorsque survient une crise, nous pouvons réagir de plusieurs façons. Certaines personnes seront comme paralysées, incapables d'agir, paralysées de crainte, paralysées peut-être du fait d'un choc. À l'inverse, d'autres deviennent hyperactives, recherchent une solution rapide. Qu'a fait Ésaïe dans ce moment de crise pour le peuple? Pour que la paix dure à Jérusalem, il aurait pu se rendre avec une délégation dans un pays et puis signer des accords de paix. Dans un pays étranger, pays voisin, signer des accords diplomatiques. Il aurait aussi pu essayer de monter son propre parti politique, religieux, afin d'assurer un bon avenir à son pays dans la continuité du règne d'Ozias. Mais dans ce premier verset, nous ne trouvons Ésaïe ni dans un pays voisin, ni dans le palais, ni sur la place du marché, mais probablement dans le temple. En tout cas, c'est à un moment critique pour le peuple d'Israël que le Seigneur s'est révélé à lui. Dans une année de crise nationale, Dieu donne à Ésaïe une vision et une mission importante et difficile. Ce n'est pas la vision d'un avenir paisible. Il y a des paroles d'un avenir paisible dans le livre d'Ésaïe, mais pas ici. Il n'y a pas la vision de grande victoire, ni la vision de la destruction des ennemis. Ésaïe a la vision de Dieu lui-même. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. La crise ouvrait la porte sur un avenir incertain, mais le fait de voir Dieu a rempli Ésaïe de confiance et de paix. Sachant que l'avenir est dans les mains de Dieu, il a ensuite pu écrire « Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. » L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Ésaïe 14, versets 26 et 27. Nous voyons dans ces deux versets que Ésaïe fait pleinement confiance à Dieu quant au sort de son peuple et même le sort de toutes les nations. Pour rester calme et confiant dans les moments de crise, nous avons besoin d'une vision de Dieu qui soit juste. Et cette vision juste de Dieu se trouve, heureusement pour nous, dans la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas laissés sans se présenter à nous de façon juste. Il y a quelques années, je me souviens d'une soirée au Centre évangélique d'information et d'action où les responsables d'église ont été encouragés simplement à remettre la parole de Dieu au centre de la vie de l'église. Pourquoi ? parce que nous n'aurons jamais une vision juste de Dieu si nous nous laissons guider par nos intuitions théologiques, si nous nous laissons guider par nos sentiments aussi, si nous interprétons plutôt notre ressenti alors que nous devrions plutôt interpréter la parole de Dieu. Je nous exhorte à donner à la Bible qui nous présente Dieu de façon juste la place qu'elle mérite dans notre vie. Elle est la parole de Dieu qui éclaire notre route. Elle est infaillible, sans erreur. Elle fait autorité en matière de foi et de vie. Cela, la plupart de nos confessions de foi le disent. Le vivons-nous ? C'est autre chose de le réciter que de le vivre. Est-ce que l'autorité suprême dans ma vie, c'est ce que Dieu dit dans sa parole ? Est-ce que quand j'ai une question, je cherche ce que Dieu dit dans sa parole pour y répondre ? Lorsque j'ai un choix à faire, est-ce que je cherche à voir ce que la parole de Dieu contient comme sagesse et comme principe pour m'aider à discerner ce que Dieu attend de moi ? Quelle vision Ésaïe reçoit-il de Dieu ? Ésaïe dirige ses yeux vers le Seigneur et voit deux séraphins qui volent au-dessus du trône divin. Il les entend s'interpeller l'un et l'autre. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et pour compléter cette expérience impressionnante, le texte biblique nous précise que les fondements des seuils, donc le sol en fait, étaient ébranlés et la maison était remplie de fumée. Dieu a de nombreux attributs merveilleux. Il est amour, il est fidèle, il est tout-puissant. Mais le seul de ces attributs qui soit répété ici dans ce texte trois fois, c'est sa sainteté. Il est saint, et la répétition est utilisée pour insister. Après avoir vu cette sainteté de Dieu, les yeux d'Ésaïe ont quitté le Seigneur pour se tourner ensuite vers lui-même. Et il s'écrit « Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. » La crise nous procure l'occasion de nous rapprocher du Seigneur en vérité devant lui. Et en le faisant, nous nous rendons compte de notre propre insuffisance, de notre propre péché. Avant la crise, nous disons avec joie que notre avenir est dans les mains de Dieu. Mais lorsqu'elle nous frappe, lorsque nous perdons notre emploi, lorsque nous avons des ennuis de santé, que notre avenir ne nous semble plus du tout rassurant. Il est sans doute plus facile de faire confiance au Seigneur, au moins en apparence lorsque nous nous sentons en sécurité. Mais cette confiance, si elle disparaît dès que la moindre difficulté arrive, était-elle forte ou faible ? N'était-elle pas superficielle ? Je pense à nos frères et sœurs allemands ou belges qui ont perdu leur maison dans les inondations il y a quelques semaines seulement. Comment réagirions-nous si nous perdions tout ? C'est pourtant ce genre de situation, dans ce genre de situation, que je ne nous souhaite pas, que nous pourrions évaluer notre degré de foi, de confiance en Dieu. L'intention du Seigneur est de nous faire progresser dans la foi, toujours. C'était déjà le cas à l'époque d'Ésaïe. Le Seigneur a voulu qu'Ésaïe ressente sa petitesse et aussi son péché, afin de lui révéler sa grandeur et sa sainteté. Les crises, nos crises, sont dans la main du Seigneur, comme des outils pour nous sortir peut-être d'une habitude religieuse, d'une routine, pour révéler les mensonges également dans notre manière de penser, pour nous aider à discerner nos mauvais choix et notre manque de confiance en Dieu. Alors au lieu de râler sur les autres, de les accuser lorsque nous ne sommes pas bien, qu'ils soient responsables, regardons-nous plutôt dans la présence de Dieu. Peut-être y a-t-il des choses à corriger dans notre vie. Peut-être avons-nous, nous aussi, des lèvres impures, comme l'avoue humblement Ésaïe devant son Dieu. et l'un des séraphins vola vers moi. Il avait dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Voici ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée. Propitiation est faite pour ton péché. » Certains commentateurs précisent que l'autel qu'Ésaïe voit ici en vision préfigure le sacrifice de Jésus-Christ, représente par avance la purification qui sera opérée par l'œuvre de Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit de cet autel céleste, pouvons-nous nous représenter, même quelques instants, juste la sensation que doit faire un charbon ardent sur des lèvres si sensibles ? Je suis certain qu'Ésaïe n'a jamais oublié ce moment. Le Seigneur veut utiliser les lèvres d'Ésaïe dans sa mission prophétique. Alors il commence par les brûler, en quelque sorte. Ésaïe est purifié, attentif en présence du Seigneur. Il est prêt à écouter. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» C'est tellement facile d'avoir nos propres idées, nos propres plans, nos propres opinions, nos propres solutions. Et lorsque notre esprit est occupé par nos propres idées, opinions et solutions, c'est tellement difficile de prendre le temps d'écouter le Seigneur. Mais si nous voulons tirer profit de nos crises et si nous voulons grandir en les traversant, nous devons remettre nos initiatives au Seigneur et essayer d'écouter sa voix. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Ésaïe 30, verset 21. Le Seigneur peut choisir de parler par sa parole. C'est d'ailleurs logique, hein, nous parlons avec notre parole. Le Seigneur parle aussi par sa parole, en tout premier, la Bible. Il peut également choisir de nous parler par l'intermédiaire de conseils d'amis, par les circonstances également, en conduisant nos réflexions par le Saint-Esprit qui vit en nous. Le Seigneur Tout-Puissant choisit le moyen de nous parler et le moment. De notre côté, soyons comme Ésaïe, prêts à entendre. Sommes-nous prêts à entendre ? Lorsqu'Ésaïe a répondu au Seigneur « Me voici, envoie-moi », je me demande bien à quoi il s'attendait de la part de Dieu. Pensait-il que Dieu allait l'envoyer pour oindre un nouveau roi, puisqu'Ozias était mort ou allait bientôt mourir ? Imaginait-il que le Seigneur allait l'utiliser comme Moïse pour sortir le peuple de Dieu de cette crise et le mener vers un nouveau pays ? Le Seigneur n'a pas demandé à Ésaïe « Qu'as-tu envie de faire ?» Il a dit « Va et dis à ce peuple, en entendant, vous entendrez et vous ne comprendrez pas, et en voyant, vous verrez et vous ne connaîtrez pas. » Par les crises de nos vies, le Seigneur veut nous dire quelque chose. À l'un, il va demander de poursuivre sa mission, à l'autre, de changer de cap. Le Seigneur peut ouvrir une fenêtre pour nous montrer une nouvelle direction, un nouveau service, un nouvel appel. Ésaïe, quant à lui, dans ce texte, reçoit une mission prophétique difficile. Le peuple auquel il devait s'adresser était endurci et il devait annoncer des choses qui n'étaient pas joyeuses pour le peuple dans l'immédiat. S'il avait regardé au succès et aux résultats visibles, il n'aurait pas tenu longtemps. Ce ne sont pas les crises et les difficultés en elles-mêmes qui doivent nous dire quand arrêter. Ésaïe a d'ailleurs demandé « Jusque à quand, Seigneur ?» C'est-à-dire « Jusque à quand devrais-je annoncer ce message si lourd à porter au peuple ?» Et le Seigneur a répondu « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, de sorte qu'il n'y ait plus d'habitants, que l'Éternel en ait éloigné les hommes et que la solitude soit grande au milieu du pays. » La réponse de Dieu n'est pas de loin pas positive. Mis à part la note finale qui nous indique que Dieu poursuit, malgré les chutes de son peuple, un plan de salut en suscitant au milieu de lui un reste qui sera fidèle, une souche sur laquelle poussera de nouvelles branches, Dieu ne dit pas à Ésaïe « Annonce le message que je te donnerai jusqu'à ce que le peuple se repente et qu'il revienne à moi et que je puisse déverser ensuite ma bénédiction sur lui. » Ou alors il dit ça, mais sur plusieurs siècles, et pas le temps de la vie d'Ésaïe. Dieu a prévu de juger son peuple par l'exil. La prédication d'Ésaïe, et Ésaïe le sait, ne permettra pas que le peuple se détourne de ses mauvaises voies. Et il devra malgré tout annoncer ces paroles de Dieu. Son message mettra donc en valeur l'aveuglement du peuple et son endurcissement. Ésaïe sait que son message ne passera pas, que son message ne sera pas entendu par ses contemporains. Mais peu importe, ce qui est important pour lui, c'est d'être fidèle à la mission que Dieu lui adresse. Aujourd'hui, dans nos églises, nous n'aimons pas entendre certains messages. Nous aimons entendre les messages positifs du type « Dieu est bon ». Et moi aussi, j'aime bien entendre ça. Dieu nous aime. Dieu bénit. Et tout cela est vrai. Mais nous oublions peut-être que la Bible dit aussi, peut-être en quantité aussi importante, si on regarde le nombre de versets, je ne sais pas, que Dieu est redoutable, qu'il est juste, qu'il est saint, qu'il déteste au plus haut point le péché. Il est aussi écrit que l'humanité est sous la colère de Dieu, que l'homme sans Dieu est mort. La Bible contient de nombreux et sérieux avertissements. Convertissez-vous, repentez-vous, acceptez de vous soumettre à l'autorité de Dieu, revenez à Dieu, sinon la colère du juste juge demeure sur vous. Voilà aussi une partie du message de l'Évangile, partie sans laquelle les notions de pardon, de grâce et d'amour sont sans doute mal comprises. La réalité, la vérité est à certains égards difficile à accepter, difficile à supporter. Tant d'épreuves, tant de souffrances, tant d'injustices, tant de questions sans réponse. Voilà la réalité de notre vie. Où est la victoire? Où est la gloire? C'est le Messie souffrant qui nous donne la victoire. La victoire sur le péché et la gloire qui nous est promise. Alors, comme Ésaïe, nous nous demandons jusqu'à quand, Seigneur? C'est à Dieu de déterminer le commencement et la fin. C'est Dieu qui décide. Nous devons nous soumettre à sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas, et surtout lorsque nous ne comprenons pas. Dans le concret de nos vies aussi, soyons attentifs à la voix de Dieu. Poursuivre ses propres projets lorsque Dieu dit d'arrêter, ça n'est pas de la fidélité, c'est de la désobéissance. S'arrêter lorsqu'il dit d'avancer, c'est aussi de la désobéissance. Les crises de nos vies peuvent suggérer des changements de cap, mais ça n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, nous sommes appelés à la persévérance. Que Dieu alors nous accorde à chacun le discernement. Amen.